Et par actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 mai 2017 et c'est Clotilde Seil sur Canal M qui vous présente maintenant vos par actualité avec en titre un traitement montréalais contre l'autisme. Coupe dans les loisirs en CHSLD, ça brise toute ma vie de dire une personne âgée. Six jeunes filles de l'école de danse et les danses ont illuminé la journée de plusieurs personnes âgées. De Trois-Rivières à Philadelphie, sur une seule roue, pour la bonne cause bien sûr. Nouveau-Brunswick, semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 2017. Et en France, la maman d'une jeune fille trisomique nommée secrétaire d'État en charge du handicap. Et puis deux entrevues aujourd'hui, d'abord avec Jacinthe Anglade, agente de développement loisirs jeunesse à la Fondation des aveugles du Québec, et avec Alice Charras, directrice générale du RACOR, le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Des chercheurs montréalais ont découvert un médicament contre le syndrome du X fragile, une maladie qui s'apparente à l'autisme. Ce médicament, la metformine, fonctionne chez la souris et une étude clinique chez l'humain sera lancée sous peu. Couramment utilisée par les diabétiques, donc non toxique, la metformine pourrait aussi être utile contre l'autisme. Nous sommes les premiers à montrer que la metformine annule certains aspects comportementaux du syndrome du X fragile qui sont similaires à ceux de l'autisme, explique Ilse Gantois, biochimiste à l'Université McGill, qui est l'une des co-auteurs de l'étude publiée récemment dans la revue Nature Medicine. Il y a aussi une amélioration des connexions entre neurones. Une petite étude l'an dernier avait déjà montré que ce médicament peut franchir la barrière entre le sang et le cerveau parce qu'elle avait observé une amélioration de la mémoire chez les patients atteints d'Alzheimer. Nous confirmons que la metformine peut franchir cette barrière. La barrière entre le sang et le cerveau complique le traitement par des médicaments de maladies neurologiques. Nous sommes en contact avec plusieurs hôpitaux du Québec, du Canada et des États-Unis pour lancer une étude clinique chez l'humain, dit Mme Gantois. Les approbations devraient être facilitées par son utilisation assez répandue pour le contrôle du diabète. Nous allons aussi étudier son impact sur des modèles d'autisme chez la souris et si c'est positif, nous inclurons des patients autistes dans l'étude clinique. L'étude devrait regrouper plusieurs centaines de patients et durer de 3 à 5 ans. Selon la biochimiste montréalaise, si elle fonctionne, la metformine devra être prise en continu par les patients. Un détail encourageant, des partenaires de l'Université de Californie à Davis viennent de publier une petite étude montrant que la metformine améliore le comportement des patients atteints du syndrome du X fragile. C'était d'après un texte de Mathieu Perrault dans la presse. Dans la tribune maintenant, Mélanie Noël nous dit que le ministre Barrette a beau prétendre que l'abolition des postes de récréologues et de techniciens en loisirs n'affecte en rien les services à la population. Eh bien, Noëlla Leblanc, une bénéficiaire, Lynn Gendron, une technicienne en loisirs, et Denise Labrec, une représentante des familles, ainsi qu'Emmanuel Breton de la PTS, dénoncent, eux, l'impact direct et bien réel de cette réduction de services sur le bien-être des personnes hébergées. Augmentation de la détresse psychologique et des comportements agressifs chez les bénéficiaires des centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD de Sherbrooke. Voilà ce qu'observent les personnes qui sont en contact quotidien avec eux depuis que le ministre Barrette a aboli des postes de récréologues et de techniciens en loisirs. Les activités sont nécessaires pour passer le temps que je passais autrefois à travailler. Ces activités nous tiennent la tête en dehors de l'eau, sinon on se noie. Je vous en prie, gardez-nous en santé physique et mentale. J'ai besoin de loisirs, ce n'est pas un luxe, c'est obligatoire. Sinon, ça brise toute ma vie. A lancé comme un cri du cœur, Noëlla Leblanc, 92 ans, au nom de tous les bénéficiaires des CHSLD. Cette dernière est hébergée au centre d'hébergement Saint-Vincent depuis 4 ans, après un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé partiellement paralysée. M. Barrette a soutenu que les gens âgés et malades ne se rendraient pas nécessairement compte des coupes dans les loisirs et que ça ne changerait pas grand-chose. Dans le fond, c'est triste. On leur doit plus que cela. Ce sont eux qui ont bâti le Québec, a souligné Emmanuel Breton, répondant politique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, donc l'APTS pour l'Estrie. La Fondation des aveugles s'est donné comme mandat de soutenir les personnes aveugles ayant une déficience visuelle dans les domaines de l'habitation, des loisirs et de la vie communautaire. Mais ce n'est pas tout, on parle aussi d'activités estivales pour les jeunes et plus particulièrement des camps d'été. Et c'est avec Jacinthe Langlade que je vais en parler. Madame Langlade est agente de développement loisirs jeunesse à la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour Madame Langlade.
Bonjour.
Alors, j'ai bien défini ce qu'était la Fondation des aveugles ou est-ce que j'en ai oublié un petit peu que vous pourriez rajouter?
Vous avez quand même bien défini les trois volets qu'on travaille le plus. Mm-hmm. Il y a un petit volet prévention aussi qu'on démontre sur nos réseaux sociaux.
Ah, d'accord.
Pour faire attention à nos yeux.
D'accord, pour faire attention à ses yeux. Le loisir pour les jeunes ayant une déficience est une des grandes spécialités de la Fondation. On aimerait beaucoup, au Par Actualité, que vous nous décriviez un petit peu les camps que vous offrez.
Nous, on a une formule un peu différente des camps de la ville. Mm-hmm. Nos camps de jour sont cette année sur 7 semaines, nos camps d'été.
D'accord.
On a une semaine de camps de jour alterné de camps de vacances. Fait que la semaine suivante, ça va être un camp de vacances qu'on va partir du lundi au vendredi à l'extérieur, puis on passe la semaine avec eux.
OK, mais donc les camps de jour n'ont pas lieu au même endroit que les camps de vacances, alors?
Exactement. Les camps de jour ont lieu à Montréal, dans notre établissement habitation sur la rue Bennett. Mm-hmm. Et nos camps de vacances sont un peu partout à l'extérieur. On s'en va en région pour essayer d'aller rejoindre le plus de population d'enfants aveugles possible.
D'accord. Et dites-moi, cela comprend quel groupe d'âge, avec quel groupe d'âge travaillez-vous?
On a deux groupes d'âge. Mm-hmm. Un groupe d'âge de 6-13 ans et de 13 ans et plus.
Donc, pas d'adultes ici ou jusqu'à quoi, à peu près 25 ans à peu près, c'est ça?
Oui. Environ 25 ans.
D'accord. Pouvez-vous nous donner un petit exemple des lieux que vous allez visiter cet été?
Cet été, dans nos camps de jour, mm-hmm. On va aller faire le centre des sciences, on va aller au Glissado à Pointe-Calumet, on va se promener dans Montréal, surtout le Vieux-Port, oui. Certains musées aussi.
D'accord.
Puis pour nos camps de vacances, on va aller en Estrie à Jouvence. On va aller dans la Naudière au camp Mariste, au village des jeunes, puis au camp Richelieu. Puis on va aller visiter la région de Gatineau avec les ados pour terminer l'été.
D'accord. Dites-moi, les camps. Bon, on s'y amuse, mais enfin, c'est pas juste pour s'y amuser qu'on y va. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à fréquenter ces camps-là?
Ben oui, nous, nos camps, on les a développés pour avoir l'accompagnement nécessaire pour des jeunes handicapés visuels. Mm-hmm. Puis aussi pour contrer l'isolement, puis réussir à faire un réseau social, puis aussi leur faire surmonter des défis.
D'accord, oui. Et pour cela, il faut qu'ils soient bien accompagnés. Autrement dit, il faut qu'ils soient accompagnés par des gens qui sont spécialisés, hein, j'imagine. Je parle des moniteurs.
Oui, nous, on fait une formation de 2 semaines avant le début des camps. Mm-hmm. Dans la formation, ils vont voir les techniques de guidage pour des jeunes. Des techniques d'intervention aussi en situation de crise, du premier soin. Et ils vont aussi en profiter pour monter une thématique pour pouvoir animer les jeunes.
D'accord.
Durant toute l'été.
Mais dites-moi, ça doit coûter cher tout ça, non?
Oui. Bon, c'est certain, on ne peut pas dire que c'est gratuit.
Non, c'est ça.
Mais pour la sécurité des jeunes, on n'a pas le choix d'offrir ces services et ces
Bien
formations-là.
Sûr.
Puis, c'est pour ça qu'on a aussi grand besoin du public
Mais oui.
et des dons de chacun pour nous
D'accord.
aider
D'accord.
à financer le tout.
Mais en même temps, mon petit doigt me dit que bon, vous avez aussi une clientèle parfois qui est issue de milieux défavorisés. Alors les tarifs peuvent pas être beaucoup plus chers, j'imagine, que ceux d'autres camps.
Non, effectivement.
Bon.
Nous, ce qu'on leur offre, c'est de payer l'activité, généralement.
D'accord.
Puis
OK.
nous, on offre l'accompagnement et le transport si nous avons besoin de transport.
D'accord, Jacinthe Langlade, je voudrais que vous nous disiez comment les gens doivent procéder. Je parle des parents d'enfants qui pourraient être intéressés. Comment on peut s'inscrire?
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.je-m'inscris-maintenant.com/loisirs-FAQ.
D'accord.
Sinon, vous pouvez me rejoindre par courriel si vous avez besoin d'informations au Jacinthe, Jacinthe, à commercial aveugle au pluriel.org.
D'accord,
Comme ça,
Jacinthe.
moi, je peux répondre à toutes les questions et les diriger aussi.
D'accord. Et si on veut faire un don, on passe par quel site?
Vous pouvez aller directement sur le site de la Fondation, au www.fondationdesaveugles.org.
Parfait. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour, Jacinthe Langlade. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis bon été avec les jeunes.
Merci à vous. Bonne
Allez, au
journée.
revoir. Bonne fin de journée. Par actualité régionale, six jeunes filles de l'école de danse et les danses ont illuminé la journée de plusieurs aînés du centre d'accueil Saint-Joseph et de la résidence du Précieux Sang. C'était le samedi 6 mai dernier. À travers la danse, elles ont vécu une expérience humaine qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier, écrit Mélanie Labrecque dans Le Peuple Lévis. Ce n'est pas une prestation que nous offrons, mais un échange à partir du mouvement et de la communication non verbale. Nous sommes avec des personnes qui sont en déficience cognitive et qui n'ont plus la parole pour certaines d'entre elles. Donc, le geste et le mouvement prennent tout leur sens, a expliqué Marie-Danielle. Marie-Noëlle Goy, codirectrice de l'organisme Papillon Blanc Danse. Le regroupement s'est associé avec l'école et les danses pour faire des visites dansées dans des résidences de personnes âgées semi-autonomes et non autonomes. Les six participantes ont été formées pour interagir avec elles. Ces dernières ont affirmé avoir apprécié leur expérience. Gabrielle Bégin a surtout remarqué leur sourire. Ça leur faisait plaisir de les voir revivre leur jeunesse à travers la danse. C'est vraiment beau. Nous avons un sentiment de fierté de savoir que nous leur avons apporté de la joie. Elles étaient unanimes, elles ont trouvé l'expérience enrichissante et se sentaient bien de voir qu'elles pouvaient leur donner un sourire et de pouvoir leur tenir compagnie. Ça m'a permis de voir une autre étape de la vie, a poursuivi la jeune danseuse qui s'appelle bien Galabrielle et non pas Gabrielle. Dans l'écho, la TUC haute au Saint-Maurice de Trois-Rivières à Philadelphie sur une roue. Eh oui, vous avez bien entendu, sur une roue. Le Mauricien Pierre-Olivier Hudon s'est lancé un nouveau défi afin d'amasser des dons pour la fondation Le Pont vers l'autonomie. Il est conscient que le périple comporte son lot de difficultés, considérant entre autres les dénivellations à certains endroits. Il est toutefois bien entouré par son équipe afin de mener à terme son exploit. J'ai fait mon premier défi l'an dernier, après avoir découvert l'histoire de Dany Martel. J'avais vu passer sa soirée bénéfice sur Facebook pour l'obtention d'un bras robotisé. J'ai décidé d'utiliser ma passion pour la cause. Aujourd'hui, il a son bras Jaco qui lui permet de tout faire et j'en suis heureux. J'ai décidé de continuer de me dédier à la cause, commente-t-il, d'entrée de jeu. J'ai avec moi un monocycle supplémentaire au cas où le mien briserait en cours de route. Je bénéficie également des appuis moraux nécessaires puisque je suis accompagnée tout au long du trajet. Il y aura des endroits plus difficiles comme le Vermont. Mais ces aspects ainsi que la température sont le dernier de mes soucis quand je vois ce que doivent vivre les gens comme Dany Martel au quotidien. Originaire de Notre-Dame de Montauban, Dany Martel vit avec la quadriplégie provoquée par un accident de la route. La fondation Le Pont vers l'autonomie offre des services aux personnes éprouvant des limitations motrices sévères. C'est très inspirant et très fort ce que fait Pierre-Olivier Hudon pour nous. Aujourd'hui, je peux boire mon café et faire mon épicerie sans problème et de façon autonome, commente celui qui habite maintenant Shawinigan et qui organise lui aussi des spectacles pour venir en aide à la fondation. Au fait, pourquoi Philadelphie? Eh bien, pour la distance de 1000 km et surtout pour terminer l'aventure dans les marches où le célèbre personnage du boxeur, Rocky Balboa, s'entraînait, ajoute Pierre-Olivier Hudon, tout sourire. Le Raccord, c'est le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Deux campagnes ont été lancées ou seront lancées dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Donc, ont été lancées, c'était au début du mois. On va en parler tout de suite avec Alice Charras, qui est la directrice générale du Raccord. Bonjour, Madame Charras.
Bonjour, Clotilde.
Ça va bien, Alice?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, très, très bien, très, très bien. Alice, deux campagnes donc ont été lancées en ce début de la semaine de la, voyons, je vais le dire, dans le cadre, voilà, de la semaine de la santé mentale. J'en bafouille de plaisir. Vous nous parlez de tout ça. Tiens, un petit peu peut-être avant, rappelez-nous ce qu'est le Raccord très rapidement, Alice, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Alors, le Raccord représente 90 organismes en santé mentale, donc des organismes communautaires en santé mentale sur l'île de Montréal. Mm-hmm. Donc, notre objectif, c'est vraiment de les soutenir, les outiller, mais aussi, on a un volet pour plus large, sensibiliser le public sur tout ce qui concerne la santé mentale. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux, notamment. Voilà.
D'accord. Alors, au début du mois, avait lieu la semaine de la santé mentale.
Oui.
Et donc, deux campagnes concernaient une création d'outils, hein, qui vont être utiles toute l'année. On est d'accord?
Oui. Alors, en fait, c'est l'Association canadienne pour la santé mentale, donc la CSM, qui a créé la semaine de la santé mentale en 1951. Mm-hmm. Donc, ça date quand même. Et cette campagne-là de l'Association canadienne de la santé mentale, c'est parler haut et fort.
Oui.
Cette campagne de promotion, en fait, vise à encourager les gens à parler de la santé mentale, mais aussi d'exiger au gouvernement de mobiliser davantage, de bouger davantage sur ces questions, notamment par rapport à l'accès aux services de soins en santé mentale. Et toute cette information-là, en fait, sur c'est quoi cette campagne de la CSM, on peut la retrouver sur le site internet de notamment l'Association canadienne santé mentale Montréal, .qc.ca, donc acsmmontréal.qc.ca. C'est la division donc pour Montréal, mais aussi la division du Québec, parce que l'Association canadienne de la santé mentale, c'est fédéral. L'autre campagne est provinciale. C'est la campagne, donc mouvement, en fait, l'organisme maintenant, c'est le Mouvement Santé Mentale Québec.
D'accord.
Donc, c'est le fun, en fait. Maintenant, on a deux campagnes pour santé mentale.
Mais oui.
Et ils ont lancé la ressource 7 astuces pour se recharger.
Oui. J'ai entendu parler de ça. Alors, 7 astuces, où est-ce qu'on peut trouver de l'information sur ces 7 astuces en vous écoutant peut-être déjà, Edune?
Alors, ces 7 astuces, rapidement, c'est agir, ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens. Mm-hmm. Chose qu'on devrait faire, en fait, quotidiennement, pour avoir une bonne santé mentale. Et c'est disponible donc sur le site Mouvement en entier, SMQ pour...
Mouvement santé, de santé mentale Québec.
Voilà, .ca.
D'accord, donc Mouvement...
SMQ,
d'accord, .ca.
.ca. Puis ce qui est vraiment intéressant de ces deux campagnes, c'est qu'elles sont complémentaires finalement. Si on regarde un peu, parler haut et fort, ça s'adresse davantage un peu à l'ensemble de la communauté.
Oui.
Et les 7 astuces, c'est plus à la personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour entretenir sa bonne santé mentale?
Oui, je comprends tout à fait. Et puis dites donc, vous nous invitez à enfourcher la bicyclette aussi?
Oui, d'ailleurs, je vais moi-même faire le tour de l'île à vélo, donc à Montréal, le 4 juin prochain.
D'accord.
Et c'est dans le cadre de la campagne de levée de fonds de l'Association canadienne santé mentale filiale Montréal, qui organise donc cette deuxième levée-là, donc dans le cadre du tour de l'île de vélo pour Montréal, le 4 juin
prochain. D'accord. Et j'imagine qu'il faut s'inscrire.
Oui, tout. tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un départ privilégié. En fait,
ah.
si on s'inscrit par ce biais-là.
Oui.
Et en même temps, on contribue à la santé mentale. Et le site spécial donc pour cet événement,
oui.
c'est jeroule-santémentale.com.
Jeroule-santémentale.com pour s'inscrire autour de l'île spéciale. Hein, c'est bien ça.
Le tour de l'île, oui, de Montréal, en fait, c'est vraiment le tour de l'île, mais
oui.
L'association canadienne.
Avec un départ.
Un... Oui. C'est ça.
Ah, donc, vous allez tous avoir genre, le même genre de t-shirt et tout pour qu'on vous reconnaisse bien?
Oui, tout à fait.
C'est vrai, hein? Bon, bah écoutez. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de ces campagnes-là? Je pense, Alice. Hein? Sinon,
oui.
on peut toujours encore contribuer aussi si on ne peut pas participer.
Voilà, c'est ça.
Alors, si on contribue, on peut contribuer quoi financièrement? Vous avez peut-être toujours besoin de bénévoles à droite et à gauche pour alimenter en ressources humaines les organismes que vous chapeautez aussi.
Ah
hein?
oui, certainement. Ben, j'invite... souvent même le grand public à aller
oui.
Sur notre Facebook pour voir l'information ou sur notre site internet du Raccord pour voir tous les organismes qu'on représente en santé mentale, puis voir s'il y a possibilité d'offrir du bénévolat dans un des organismes ou même de faire un don à un des organismes qu'on représente. C'est toujours,
apprécié.
Toujours bienvenu.
Raccord, R-A-C-O-R point...
Alors, le site du Raccord, c'est, oui, Raccord... sm.org.
Merci beaucoup, Alice. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Moi aussi. Merci, Clotilde.
Allez, bonne fin de journée.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Au Nouveau-Brunswick maintenant, semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 2017, du 28 mai au 3 juin 2017, on vous dit, il faut être là. La semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées continue la tradition de la Semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées qui a eu lieu pour la première fois en 1988 afin de promouvoir un meilleur accès communautaire pour les personnes handicapées. Cette campagne de sensibilisation avait été organisée en réponse à une demande faite par Rick Hansen à la suite de sa tournée mondiale. Pendant 10 ans, un comité national a coordonné la planification de la Semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées dans les collectivités de l'ensemble du Canada. En 1998, on a décidé au Nouveau-Brunswick de continuer d'organiser chaque année une semaine de sensibilisation, mais sous un nouveau nom afin de s'assurer qu'on fasse la promotion de toutes les questions qui touchent les personnes handicapées. L'année 2017 marque le 30e anniversaire de la semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées au Nouveau-Brunswick et c'est signé le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées avec le comité directeur provincial qui coordonne les activités de cette semaine tout à fait spéciale. Je vais maintenant du côté des paractualités internationales avec Sophie Cluzel, qui a été nommée secrétaire d'État au handicap en France. La composition du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe vient de tomber. C'est donc Mme Cluzel qui est nommée secrétaire d'État en charge du handicap. Elle succède ainsi à ce poste à Ségolène Neuville. Mais qui est-elle, Mme Cluzel? Eh bien, Mme Cluzel, née Marchand le 7 janvier 1961, mariée, est la maman de 4 enfants, dont une fille trisomique née en 1995, Julia. Ancienne élève de Subdeco à Marseille, elle est la fondatrice de différentes associations de scolarisation d'enfants handicapés, dont le collectif SAIS 92 et l'association Grandir à l'école qu'elle préside et qui s'occupe plus spécifiquement de la trisomie 21. Depuis juin 2011, elle est élue présidente de la FNASEPH, autrement dit la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap, et administratrice de l'UNAPI de 2011 à 2013. En janvier 2012, elle a organisé le premier Grenelle de l'intégration des jeunes handicapés dans la société, où près de 50 associations locales ou nationales rédigent une plateforme de mesures qui sont transmises aux candidats à l'élection présidentielle. Selon la FNAT, la Fédération des accidentés de la vie, le parcours associatif de la nouvelle secrétaire d'État est de nature à permettre un travail constructif avec les associations de personnes handicapées qui demandent une véritable co-construction de la politique du handicap, comme Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de sa campagne, désirant faire du handicap l'une des priorités de son quinquennat, le secrétaire au handicap est désormais rattaché au Premier ministre et non plus au ministère de la Santé. En rafale maintenant, Musicomax lance la première bibliothèque numérique de tablatures de guitare en braille dédiée aux musiciens aveugles. Ça s'appelle Braille Tab. Et Musicomax vous invite au lancement de la première bibliothèque numérique de tablatures de guitare en braille, donc dédiée aux musiciens aveugles de partout dans le monde, la bibliothèque Braille Tab. Grâce à Braille Tab, les guitaristes aveugles du monde entier auront accès à du matériel adapté par une équipe de professionnels. Pour ce faire, Tommy Teberge de Musicomax a créé un code de transcription universel qui permet de rendre accessibles les tablatures de guitare en braille. L'apprentissage, la pratique ou encore le perfectionnement de la guitare n'aura jamais été aussi facile qu'avec Braille Tab. Alors le lancement aura lieu le mercredi 7 juin 2017 à 19h au bureau de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, autrement dit l'ACPEV. À cette occasion, Jean-Pierre Lessard et Tommy Teberge tiendront un point de presse dans lequel ils expliqueront le projet et le fonctionnement de Braille Tab. Alors ça se passe l'ACPEV, hein, pour vous rappeler l'adresse, c'est au 10 boulevard Churchill, bureau 203 à Greenfield Park. Canadialogue est heureux d'annoncer le lancement de son tout nouveau site web depuis le 21 avril 2017 à l'adresse suivante www.canadialogue, canadialogue en un seul mot, log, L-O-G, tout cela en minuscule bien sûr, .com. Canadialogue a mis tout en œuvre pour rendre l'expérience utilisateur la plus optimale possible. L'une des nouvelles fonctionnalités attendues de tous est notre nouvelle boutique en ligne. En effet, vous aurez la possibilité de commander vos produits préférés directement via notre site web, de payer par carte de crédit ou via PayPal et de recevoir votre commande directement à domicile, le tout de façon simple et sécuritaire. De plus, notre nouveau site web rencontre les normes en matière d'accessibilité pour les utilisateurs de technologies adaptées. Vous pourrez y découvrir nos divers produits adaptés ainsi que nos services offerts, obtenir du support et obtenir les dernières nouvelles de l'entreprise. Nous continuerons à ajouter des produits régulièrement sur notre site web et la section support s'enrichira progressivement. Pour vous informer, un numéro de téléphone dans le 1-888-730-0003, 730-0003 ou encore par courriel à info@canadialogue.com. Voilà, ainsi se referment les paractualités en ce 17 mai 2017. C'était Clotilde Seil au micro qui remercie son équipe, soit Christiane Campagna et Maurice Bolduc ce matin en régie. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h30.